à tous. Ça fait plaisir, c'est plein aujourd'hui. Surtout devant, c'est rare. C'est bien. Ce matin, on va ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 53, versets 9 et 10. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs, ce matin, je vais vous parler, surtout je veux parler à ceux qui souffrent, quelle que soit votre souffrance. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Pour moi, ça y est, j'ai reçu. Mais pour vous maintenant, c'est quelque chose de tellement merveilleux que j'ai reçu de Dieu. Et alors, je veux vous le partager. Quand vous lirez chez vous, Ésaïe 52, 13 à Ésaïe 53, 12, vous allez observer, parce que je vous le dis aujourd'hui, parce que moi, je n'avais jamais vu, peut-être vous avez déjà vu, mais je pense que non, on ne fait pas attention à ces choses, qu'il y a des mots qui sont répétés très souvent. Les mots élevé, multitude, homme, bouche, révolte, tort. Alors évidemment, on pourrait prêcher sur ces mots. Mais je pense que vous pouvez vous-même, avec la maturité que le Saint-Esprit vous a donnée, aller chercher ces choses et réfléchir. Il n'y a pas un verset qui échappe à la répétition. Et il ne faut pas oublier que ce texte nous parle du serviteur souffrant. Dans ma Bible, c'est écrit comme ça, le serviteur souffrant. Bon, nous on sait que le serviteur souffrant dont il est question là, c'est Jésus-Christ. Bien sûr, il s'agit de Jésus-Christ, c'est une prophétie. Mais, laissez-moi vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Avant que Jésus ne vienne, il y avait des croyants. Il n'y avait pas que des religieux pourris, il y avait des croyants aussi vraiment sincères, et même parmi les religieux. Et quand ils lisaient ce texte, eh bien, parfois, quand ils étaient dans la souffrance, ils s'identifiaient à ce serviteur souffrant, comme nous nous identifions très souvent à des gens dont on voit l'histoire dans la Bible. Il s'identifiait à sa dignité, à son renoncement, à sa soumission volontaire. Et aujourd'hui, nous savons, parce que Jésus est venu, qu'il s'agissait de Jésus principalement, c'est sûr. Mais alors personne ne se posait la question, mais c'est qui ce serviteur souffrant ? On ne se posait pas cette question, pas plus qu'aujourd'hui, on se pose la question, mais qui est le fils prodigue? Quel était son nom? Dans Luc 15, 11, je crois, il est bien dit qu'il y avait un... Mais on ne dit pas son nom, on ne sait pas qui c'est. De sorte qu'on puisse s'identifier. Et en fait, nous sommes tous des fils prodigues. Moi, j'ai été un fils prodigue. Je m'étais éloigné du Père. Je suis venu de l'éternité sur cette terre. Et puis, par mon péché, tout ça, je me suis éloigné du Père et je suis revenu. Mais il n'y a pas que moi. Il y a Stéphane Royer, il y a Simone Ruiz, il y a Francis Bellanger, il y a tout le monde. Nous avons tous été des fils prodigues puisque nous sommes revenus au Père. Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc, voilà. Qui est le serviteur souffrant d'Ésaïe 52-53? Ben nous sommes, nous aussi, des serviteurs de Jésus-Christ, puisque nous sommes là pour venir l'adorer. Nous lui rendons un service, le service de notre louange, de notre adoration. Et donc, nous sommes tous des serviteurs de Jésus-Christ. Et Jésus nous dit que si nous ne souffrons pas avec lui, eh ben nous ne serons pas glorifiés avec lui. Donc, il y a une part de souffrance que nous devons accepter comme venant de la part de Dieu. Frères et sœurs, ces mots qui se répètent dans l'histoire du serviteur souffrant, en fait, c'est le squelette du texte. Relisez ça avec cette idée. Si un lecteur, il lit tout le texte d'Ésaïe 52, 13 à 53, verset 11, je crois, le dernier, oui, je crois que c'est le verset 11, mais qu'il ne lit pas le verset 9, eh bien, il peut comprendre beaucoup de choses. Mais par contre, s'il lit le verset 9, il va buter dessus parce que rien de ce qui est avant dans le texte, ni rien de ce qui est après dans le texte, de lui permet de se faire une idée du sens de ce verset 9. Ce verset 9 qui dit « Il a établi son sépulcre avec les méchants et avec les riches dans leur mort parce qu'il a fait non-violence et qu'il n'y a pas de fraude dans sa bouche. » Ça a l'air... Réfléchissez, vous verrez, c'est un verset qui est à part. Et là, il fait mention des méchants, c'est-à-dire des responsables plus ou moins directs de la méchanceté qu'il a subi, que le souffrant a subi, que le serviteur souffrant a subi. Le serviteur souffrant, il agit en pleine liberté, il agit sans qu'on lui dise ce qu'il a à faire, et il porte les douleurs des gens, il porte les maladies des gens, et c'est sa décision de base, il est venu pour ça, il dit « je suis venu pour ça ». Et quand on lit ce texte, on voit que ce serviteur souffrant n'a fait que subir. Mais là, dans le verset 9, on apprend le pourquoi de son attitude. Mais encore faut-il être éclairé. Et moi, je n'étais pas éclairé à ce sujet. Et je l'ai été ces derniers jours. Son attitude, elle s'enracine dans quelque chose d'inouï, d'unique, dans quelque chose qui ne se répète pas dans le texte, ni avant ni après. Dans le pouvoir le plus méconnu de l'être humain, le pouvoir de faire non-violence. Je dis faire non-violence parce que c'est très différent de faire non-violence que de ne pas faire violence. C'est très différent. Réfléchissez. En quoi Jésus a fait une chose que nous, serviteurs souffrants, avons tant de peine à faire. Je ne dis pas que Jésus n'a pas eu de peine à le faire, mais nous, ça nous dépasse et on a envie de faire violence. Moi, je suis comme ça. En quoi il est resté solidaire. Il est resté solidaire des responsables du mal qu'il subissait. Ça, c'est la grande leçon que le Seigneur m'a montrée. Il est resté solidaire du mal qu'il subissait de la part des autres. Il était avec eux pour faire tout le mal qu'il a subi. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Et ça, on le voit à cause d'un mot. Dans second, il traduit ce mot par « on ». « On a mis son sépulcre parmi les méchants ». Dans Darby, c'est traduit comme ça, « On lui donna son sépulcre avec les méchants ». Par contre, le verset 9, c'est en hébreu « vaïten », excusez-moi la prononciation. Et si on traduit correctement le verbe tel qu'il est là, il est au singulier, c'est vrai, et il est placé de sorte qu'on comprenne que le sujet de ce verbe, c'est celui qui a été enseveli. Personne ne l'a enseveli, c'est lui qui s'est enseveli. C'est-à-dire que c'était sa volonté d'être enseveli de cette manière-là. En vérité, Jésus a été solidaire des méchants et c'est lui-même qui a établi son sépulcre avec et parmi les méchants. Et c'est d'autant plus clair que, grâce à l'évangile rétabli, ce que nous savons, nous ici au sanctuaire, nous savons que c'est Dieu qui fait tout, qui a tout préparé à l'avance, que tout est décidé à l'avance dans son conseil, avant même la création du monde. Alors, mes frères et sœurs, Esaïe pouvait annoncer d'avance que Jésus allait lui-même choisir son sépulcre. Et puis, la prophétie, Jésus lui-même dit, « Je donne ma vie, personne ne me la prend, je la donne. » Et il a même choisi son sépulcre, il a choisi ses bourreaux, et c'est lui-même qui a fixé sa propre valeur, on le sait par la prophétie de Esaïe et de Zacharie. Luc écrira après. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. Vous trouvez ça dans Matthieu 27, 9, 10, Zacharie 11, 12, 13 et Jérémie 27, 9. Donc c'était préparé, même sa propre valeur. Ça nous apprend une chose à nous, serviteurs de Dieu qui souffrons. Vous êtes tous serviteurs de Dieu. Vous avez tous la prêtrise. Vous êtes serviteurs de Dieu. Ça nous apprend comment agit un serviteur souffrant. Ça nous montre le modèle parfait. Et c'est mon épreuve actuelle qui m'a ouvert les yeux. Je n'avais jamais vu. Et alors que je suis dans la prière, voilà que je reçois cette parole qui m'enseigne. Écoutez bien, celui qui aime donne à son ami le pouvoir de le détruire. C'est ce que Jésus a fait. Jésus s'est même choisi son propre tombeau. Une sépulture parmi les riches, nous dit la Bible, la version seconde. Mais le mot précis, c'est pas ça. On devrait plutôt traduire comme ça. Il a installé, donc Jésus, il a installé son tombeau avec le pécheur et sa place d'enterrement avec le mécréant. Un mécréant, c'est une personne incroyante. Un mécréant, c'est une personne sans religion. Bon, Jésus, l'objet de notre adoration, voilà qu'il a son tombeau parmi les irreligieux et les incroyants et les sans religion. Dans le monde juif, il n'y a pas pire calamité que de ne pas être enterré avec ses ancêtres. C'est l'horreur, c'est le déshonneur pour l'éternité. Seulement voilà, cela ne lui a pas été imposé. Il l'a fait en utilisant son pouvoir extraordinaire, pouvoir qu'il nous donne, mais qu'on doit prendre. Il a enduré cette mort et cet enterrement pour rester avec ceux qui meurent de faire le mal. Le vrai serviteur souffrant, Jésus-Christ, notre grand modèle, a continué jusqu'au bout d'assumer le mal, mais sans le reproduire, sans le nier, sans l'éviter, sans le minimiser. Et en vérité, Jésus a préparé, Jésus a fait sa tombe avec le méchant parce qu'il ne voulait pas renier son père. Il fallait qu'il soit pécheur. C'était sa décision volontaire. Méchant, mécréant. Il est mort d'une façon absolument unique, comme s'il n'en finissait pas de mourir depuis le jour où il est venu sur cette terre. Dès le premier jour. Le verset 10 nous dit, dans notre version seconde, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Le peuple religieux s'est révolté contre lui. Ce peuple religieux a entraîné avec lui une foule bêlante, d'ignares, une foule manipulée par eux. Et il a été blessé. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cette blessure? Qu'est-ce qu'il en a fait de cette blessure? Eh bien, il ne l'a pas reproduite. Il ne rend pas le mal pour le mal et il prie pour ses ennemis. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et gloire à Dieu, le texte affirme qu'il va s'en sortir. Ça aussi, il le savait. Mais ça aussi, nous le savons. Il va s'en sortir et il va prolonger ses jours. Amen. Et là, dans ces versets puissants, il y a la grande inconnue de l'origine du mal qui se dévoile. La grande inconnue de l'origine du mal. Ésaïe renvoie tout ça à Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Seigneur, ça peut choquer les bisounours, hein, ceux qui ont une idée de Dieu, du bon Dieu, comme ils disent. Le même Ésaïe va écrire aussi, dans Ésaïe 45, 6, 7, et il est en train d'écrire ce que Dieu dit. Dieu est en train de parler, il dit « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Il n'y a pas. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est moi qui fais tout ça. » Et qu'est-ce que vous diriez si vous lisiez ça? Ça, c'est la version seconde. Qu'est-ce que vous diriez si vous lisiez ça dans la version Chouraki? Voilà ce qu'il dit. Dieu dit « Je suis le faiseur de paix et le créateur du mal. Moi, Adonai, je suis l'auteur de tout cela. » Ésaïe 45, 7. Maintenant, vendredi, je vous parlais du pauvre, Lazare, et puis du riche. J'espère que vous vous rappelez de ce que j'ai dit. Et je voudrais vous dire ici, en fait, tout se joue entre le mal qu'on fait et le mal qu'on subit. Tout ça, ça vient de Dieu. Dieu tenait tout en main, même Judas, même les juges, même Pilate, même Hérode, même les bourreaux, même la foule enragée, parce qu'il fallait que ça arrive. Il y a donc eu ceux qui ont fait le mal, et puis il y a eu celui qui l'a subi. Ceux qui l'ont fait, ils ont été pardonnés par celui qui a subi. Tout se trouve là. Voilà la grande leçon d'amour. Voilà la grande leçon d'amour. Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais le mal qui arrive souvent au juste, ben c'est encore l'Éternel qui l'envoie. C'est quand même terrible. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Dans quel camp vous êtes? D'où vient le mal? Il est nécessaire. On ne comprend pas toujours. On ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Ça dépasse mon entendement. On essaye de faire le bien, on essaye d'être gentil, on essaye de faire le mieux. De temps en temps, bon, on n'est pas Jésus, moi je ne suis pas Jésus, je pousse ma gueulante, mais nous avons à le subir, le mal qui nous est fait, de la façon dont Jésus l'a subi. C'est ça la grande leçon d'amour. Je n'ai pas toujours fait ça. Je n'ai pas toujours fait ça, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je ne savais pas ça. Je n'ai pas réalisé ça. Je voulais défendre la parole de Dieu. Je voulais défendre l'Église de Jésus-Christ. Et maintenant, j'ai appris ça. Et je prie sincèrement que Dieu m'aide à me tenir dans cette position. Et vous qui subissez le mal, priez aussi pour avoir la force. Allez dans votre jardin de Gethsémané et criez à Dieu. Votre souffrance, elle est nécessaire à Dieu. Je ne comprends pas pourquoi on comprendra un jour. Votre souffrance, elle est inscrite dans le plan de Dieu, puisque c'est Dieu qui vous envoie la prospérité et l'adversité, la lumière et les ténèbres, et c'est même lui le créateur du mal, c'est ce qu'il dit. Alors pardonnez ceux qui vous offensent, bénissez vos ennemis, ceux qui disent de vous toutes sortes de choses fausses ou vraies, mais pas brillantes, les faux témoins, pardonnez-les, les arrogants, pardonnez-les, et laissez-vous enterrer parmi eux. Laissez-vous enterrer comme quelqu'un qui vaut rien. En cela, par cette attitude, vous faites la volonté de Dieu. Moi, j'étais trop souvent comme Pierre, modestement, parce que Pierre, mais modestement, Pierre, voilà, je prends l'idée, par exemple, l'impétueux Pierre qui dégaine son épée, qui coupe l'oreille de l'autorité établie. Mais ces jours-ci, Jésus m'a parlé. Et il m'a dit, Michel, tu as agi ainsi, tu as coupé des oreilles, parce que c'est moi qui t'ai dit de prendre une épée. En effet, c'est Jésus qui a dit à Pierre, prenez une épée. Prenez. Mais on en a eu. Luc 22, 36. Et le Seigneur a continué en me disant, maintenant, tu as assez défendu la parole. Tu as fait ce que tu devais faire, un peu violemment, mais tu l'as fait. Remets ton épée dans le fourreau. Jean 18, 11. Vous voyez, Dieu dit une chose, après il dit une autre. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Il se contredit. Avez-vous compris? Pierre, il voulait défendre Jésus, c'est-à-dire il voulait défendre la parole. Il avait ce souci. Alors il a même tiré son épée que Jésus lui avait dit d'acquérir. Et puis, il s'est associé à Jésus, le serviteur souffrant, choisissant d'obéir à un ordre qui semblait contradictoire au premier. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Pierre? Comment il a compris la chose? Comment il a ressenti la chose? Mais il a rangé son épée. Mes frères et sœurs, je ne veux plus me battre. Je ne veux plus me battre. Je veux juste aimer. C'est tout. Je ne veux plus me battre. De toute façon, la volonté de Dieu se fera et je prolongerai mes jours. Je veux être de ceux qui font la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est que j'aime, que je ne soupçonne pas le mal et que je sois en quelque sorte aussi solidaire du mal. C'est-à-dire que si vous voulez me battre, allez-y. Si Jésus n'avait pas été solidaire dans le mal qu'on lui faisait subir, il aurait appelé des légions d'anges, il le dit lui-même, hein, qui seraient venus à sa défense, qui auraient tout arrangé. Mais s'il avait fait ça, la volonté de Dieu n'aurait pas été faite. Il fallait que ça passe par là. Lui, il savait pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, j'accepte. Alors, il a pardonné. Et comme je vous disais vendredi soir, pardonner dans le grec, ça veut dire laisser faire. Il a laissé faire. Laisser faire. Combien de fois je me suis tenu ici en disant qu'il faut lâcher prise. Mais je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Je ne pensais pas. Mais étant donné, Dieu sait que je ne sais pas de l'orgueil, étant donné que je suis fidèle dans sa parole et que je la mets en pratique le mieux que je peux, Dieu me confie encore d'autres choses pour vous le communiquer. Je pourrais le garder pour moi, mais je préfère vous le donner. Alors je commence seulement à le faire parce que je commence, parce que j'ai appris cela, là. Ça m'est tombé dessus comme ça. Alors je vais me perfectionner, je ne dis pas que je vais être parfait en cela tout de suite. Je vais faire tous mes efforts et je demande à Dieu de m'aider à travers de toutes ces souffrances. J'ai trouvé un texte extraordinaire qui était trouvé dans un camp de concentration allemand. Et ce texte a contribué à m'ouvrir les yeux sur ces choses. Vous allez voir comment Dieu fait. C'est un juif qui a écrit ça. Et c'est ainsi que j'ai pu mieux comprendre l'origine du mal qui m'arrive, qui vous arrive. Je vais vous lire ce texte. Il est à l'envers, complètement à l'envers de tout ce que l'homme normal pense. C'est un texte merveilleux. Voilà ce texte. Ça a été retrouvé dans un camp de concentration en Allemagne, un camp où il y avait des juifs. On ne sait pas qui c'est qui l'a écrit, mais c'est un juif. Paix à tous les hommes de mauvaise volonté. Que toute vengeance cesse. Tout appel au châtiment et à la rétribution. Les crimes ont dépassé toute mesure. Tout entendement, il y a trop de martyrs. Ainsi, ne mesure pas leur souffrance au poids de ta justice, Seigneur. Et ne laisse pas ces souffrances à la charge des bourreaux pour leur extorquer une terrible facture. Qu'ils soient payés en retour d'une autre manière. Inscris en faveur des exécuteurs, des délateurs, des traîtres et de tous les hommes de mauvaise volonté, le courage, la force spirituelle des autres, leur dignité, leur lutte intérieure constante et leur invincible espérance, le sourire étanché les larmes, leur amour, leur cœur brisé qui demeurèrent fermes et confiants face à la mort même, oui, jusqu'au moment de la plus extrême faiblesse. Que tout cela soit déposé devant toi, ô Seigneur, pour le pardon des péchés, rançon pour le triomphe de la justice. Que le bien soit compté et non le mal, et que nous restions dans le souvenir de nos ennemis, non comme leurs victimes, non comme un cauchemar, non comme des spectres attachés à leurs pas, mais comme des soutiens dans leur combat pour détruire la furie de leurs passions criminelles. Nous ne leur demandons rien de plus. Et quand tout cela sera fini, donne-nous de vivre, hommes parmi les hommes, et que la paix revienne sur notre pauvre terre. Paix pour tous les hommes de bonne volonté et pour tous les autres. Je ne veux pas commenter ce texte, je ne peux pas. Je crois sérieusement que j'ai passé ces souffrances qui durent depuis une quinzaine d'années et qui atteignent un sommet là, afin de finalement comprendre ce que je viens de vous dire. Je vous le dis, afin que ça vous aide. Peut-être que vous allez vous servir de cela comme une arme encore pire, mais j'ai bonne espérance et je crois en vous. Mes frères et sœurs, souffrez à la manière de Jésus. Souffrons à la manière de Jésus. Vous avez des souffrances. Souffrons-les à la manière de Jésus. Amen. Jésus, aie pitié de nous. Aide-nous à faire ta volonté dans toutes ces choses, en te prenant pour modèle de bonté, de douceur, de résignation, de renoncement. Tu as dit donner votre vie, cela ne consiste pas qu'à donner notre argent, mais ça consiste aussi à cela, en cela. Je te bénis, mon Dieu, de nous aider à le comprendre et de nous aimer. Merci, mon Dieu.